Salut à tous et bienvenue encore une fois pour notre podcast hebdomadaire Super Physique. Je suis avec l'incroyable William Carnimola, alias Julien Venezia. En fait, nous avons trouvé le sosie de Julien juste avant l'émission. Donc, juste une petite parenthèse avant qu'on démarre. Donc, William Carnimola était le présentateur de l'émission Belle toute nue. Pour ceux qui ne savent pas. Et donc, il ressemble comme deux gouttes d'eau à Julien. Donc, je pouvais pas m'empêcher de faire une blague. Donc, je récapitule, je suis avec Julien Venesson, le fabuleux, le magnifique, l'auteur du livre La Nutrition de la Force, présent aussi Akuma, le chat de Julien, toujours présent, et plus sérieusement, je suis avec Patrick, anciennement Free, donc membre de la team Super Physique, qui est là donc pour animer le podcast ce soir.
Salut à tous.
Donc Patrick, c'est parti pour l'animation.
Je peux peut-être présenter Patrick avant, plus en détail peut-être, non ?
C'était pas prévu ça, Julien.
Julien, il voit un blanc, bravo Julien. on va présenter Patrick après.
D'accord.
Voilà. écoutez, déjà, ça me fait plaisir d'être avec vous. Ça fait un bout de temps que je voulais participer à ce podcast et j'en avais pas eu l'occasion, donc voilà, j'en profite pour vous le dire.
Rudy était un peu timide, on a fini à le décider de...
Je sais, il osait pas. Il avait peur que je lui fasse de l'ombre. T'inquiète pas, oui.
Je lui ai donné des conseils.
Je ne commencerai pas l'avatar de Patrick sur Skype.
Allez, c'est parti. Actualité. Donc, Rudy, t'as des choses à nous dire sur les nouveaux goodies Super Physique.
Voilà, donc, on arrive au bout des t-shirts Super Physique Superman, en fait. On en a vendu, donc 200. Donc là, pour l'instant, on va rester cette production-là. Et donc, je viens de lancer aujourd'hui... Donc on vient de payer normalement pour les nouveaux t-shirts et les débardeurs là vu que l'été approche, donc directement débardeurs. Donc pareil encore une fois, ce sera des éditions limitées. J'aime bien les éditions limitées pour éviter que tout le monde en ait. Comme ça, chacun a son truc un peu collector.
Pour info, j'ai failli prendre le t-shirt et quand j'ai vu que tu sortais les débardeurs, je me suis dit je vais attendre les débardeurs. Du coup, est-ce que le débardeur c'est le même modèle que le t-shirt en bleu avec le truc
Superman ? Ah non.
Ah voilà, je me suis fait avoir.
Non, mais bonne idée pour la suite, on pourrait en faire après ces débardeurs-là, en fait.
Ouais, parce que j'en ai un débardeur et honnêtement, à la salle, c'est quand même plus sympa de porter un débardeur que les t-shirts, je trouve.
Ah, je sais pas, moi, je trouve en général, c'est les cakes qui font ça, mais après, si t'es un petit cake...
T'as jamais été à la salle avec moi.
Ah, si tu roules des épaules, hein, c'est...
Bah... Ensuite.
Et donc, je voulais dire, il y a eu les premières filles aussi sur le club Super Physique. Donc, on en a trois pour l'instant. Donc, il y a Rose qui a fait au squat, donc 10 à 60. Donc, a mis le t-shirt de son compagnon. Il y a Aurore, la copine d'Arnaud, donc qui est présent sur Super Physique, sur le forum, qui est très présent. Donc, a mis son t-shirt. Et donc, on a une autre fille que je ne connaissais pas, qui a fait une performance au curl bar. Et donc, a mis, pareil, un t-shirt Super Physique pour homme en S. Donc c'est le début des femmes, donc je rappelle qu'on attend toujours les t-shirts pour femmes et donc je vous préviendrai dès qu'on les aura. Donc voilà, donc après je voulais faire un petit point sur il y a le salon Body Fitness qui se déroule dans 12 jours. Donc personnellement, je ne serai pas présent, mais notre ami Julien Venesson sera présent. Et donc il voulait qu'on le rappelle parce que il a une petite annonce à faire. Si vous êtes brune, vous avez toutes vos chances.
Non, par contre, je serai sur le stand de Olympe Nutrition avec Christophe Bonnefond, donc qui est co-auteur avec moi du livre L'assiette de la force. Donc on sera facilement joignable pour si vous voulez discuter, si vous voulez qu'on signe des livres, prendre des photos ou des photos de pouces comme tu dis Rudy.
Bah oui, c'est toujours bien des photos de pouces.
Donc moi je serai probablement là que le samedi après-midi hein, par contre.
D'accord. Donc en fait je ne serai pas au salon parce qu'en même temps il y a le championnat de France de force athlétique donc qui se déroule à Bordeaux. Donc comme par hasard on voit bien que comme chaque année la fédération et le salon ne s'entendent pas sur les dates et donc faut faire un choix entre Bordeaux ou Paris. Je préfère aller soutenir les membres de la team donc qui seront pas mal à participer dont Gilles, Romain, Brice. Donc ça va être assez sympa à suivre donc je vais essayer de faire un petit reportage en même temps. Sur ce championnat de France. Donc, je voulais faire qu'on fasse un petit point aussi sur... parce que Patrick est... est-ce qu'on peut dire le président ?
Ouais, on va dire un des collaborateurs, en tout cas.
Un des trois associés de la marque voilà. Nutriting, dont on a parlé il y a quelques mois. Donc Nutriting, est-ce que tu peux nous résumer ce que c'est exactement?
Je vais le faire rapidement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais rapidement, Nutriting, c'est une plateforme internet qui est axée sur la nutrition, hein, et voilà, qui est scindée en plusieurs grands piliers. Il y a un pilier qui est l'éducation, et ça vient vraiment du fait que, voilà, moi étant devenu assez pointu en nutrition, je suis devenu un peu le conseiller de ma famille, de mes proches, de mes amis, de mes collègues, et idem pour mes deux autres collaborateurs. On a des histoires assez proches, et du coup, à force de donner des leçons, des cours, on s'est dit on va faire un site et puis on va expliquer aux gens simplement. Donc sur le site, on a des cours du type les glucides, les protéines, etc., mais vraiment pédagogique, facile d'accès, avec des petits dessins sympas. Donc ça, c'est le pilier éducation qui vient d'ailleurs avec une partie blog qui traite de l'actu, un peu comme la nutrition.fr le fait. Donc ça, c'est le pilier éducation. On a un pilier supplémentation. Donc là, on essaye de faire des compléments multivitamines très haut de gamme. Là aussi, ça vient vraiment d'un besoin que j'avais moi-même, parce que j'achetais tous mes compléments aux États-Unis, et je pense que ceux qui me suivaient sur Superphysique pouvaient voir que je finissais par en avoir un paquet, parce que acheter sa vitamine C, D, la E, les oméga 3, etc., à droite à gauche, on finit par en avoir un paquet. Et je me disais, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas
des... Qu'est-ce qui différencie Nutriting en tant que marque des autres marques?
Alors, plusieurs choses. Déjà en France, on est les premiers à avoir lancé des multivitamines sans éléments pro-oxydants. Donc ceux qui suivent Superphysique l'entendent, parce que Julien l'a suffisamment répété. Donc par ailleurs, Julien fait partie
Team Nutriting.
Il fait pas vraiment partie de la Team Nutriting. Il fait partie des collaborateurs à qui on fait appel, mais encore une fois, en toute indépendance, ça c'est très important, mais à qui on a fait appel pour nous aider. Donc Julien, en l'occurrence, a participé à la formulation des produits. Et donc, pour revenir à ces produits, ils n'ont pas d'éléments pro-oxydants comme le fer, le manganèse, ce genre de choses. Et ils utilisent, dès qu'on peut, les meilleures formes, donc les plus biodisponibles, les plus naturelles, dès qu'on peut. Et en plus, on se donne pour mission de garder toujours les formulations au top et les formes au top. Donc, dès qu'on pourra faire évoluer le produit, on le fera.
Donc, qu'est-ce que vous vendez comme différents produits?
Alors, c'est shooté dans le micro, j'espère que ça va aller. Comme différents produits. Alors, pour l'instant, on a deux gammes. Une gamme de multivitamines, et on en a deux. Un U-vitamine qui est un peu le basique. Voilà, il y a tout ce qu'il faut dedans, mais pas trop. Et du coup, celui-là, il est, par exemple, très bien destiné à ceux qui veulent un bon complément multivitamine, mais sans chichi, ou par exemple aux femmes enceintes. Voilà, il a, par exemple, vraiment été fait pour ça. Et en un peu plus corsé, on a le Nupower, donc c'est l'équivalent d'une vitamine, mais en plus, avec vraiment, là pour le coup, je crois qu'on est les seuls à faire ça. On a tous les ingrédients qui participent à la régénération du glutathion, qui est l'antioxydant le plus puissant du corps humain. Et donc c'est une approche vraiment nouvelle des multivitamines. C'est se dire que plutôt que de prendre des méga doses, on va plutôt prendre des doses bien choisies, mais de plein d'ingrédients vraiment actifs qui agissent ensemble. Donc voilà, c'est que des ingrédients qui agissent ensemble. Et enfin, ensuite, on a le Nuactif, lui, qui est plus destiné aux seniors, ou à partir de 30-40 ans. Donc c'est ce qui a un complexe pour protéger les télomères, c'est l'ADN, l'extrémité de l'ADN quand on vieillit. Et enfin, on a un Numove, et là pareil, c'est un complexe dans lequel on a mis tout ce qui est efficace pour les articulations. Donc je sais que certains prennent de la glucosamine ou ce genre de choses. Il y a d'autres choses qui sont efficaces, et du coup on a tout regroupé dans un seul et même complexe. Donc pour l'instant il n'y en a que 4, et évidemment ça sera...
Donc ça, on peut acheter ça où?
Sur le site Nutriting.
Donc c'est nutriting.fr
.com, le .fr marche également. On commence à avoir quelques revendeurs, donc à droite, à gauche, mais ça va venir, ça, enfin, voilà. Et puis voilà, essentiellement sur notre site pour l'instant.
Et on peut peut-être aussi dire que il y a eu un grand comparatif des compléments alimentaires multivitamines qu'on a fait sur la nutrition.fr, donc avec qui je travaille, parce que je travaille pour la nutrition.fr. On l'a fait, c'était quand ça? C'était pendant l'été 2012. Donc régulièrement on fait des comparatifs de compléments alimentaires multivitaminés. Et cette année, comme il y avait le Nupower et le Nuvitamine auxquels j'ai participé pendant la création. J'ai pas fait partie des experts qui jugeaient ces produits-là. Et malgré tout, ils sont arrivés dans les meilleurs produits et les meilleurs produits français en termes de multivitamines. Donc voilà, ce sont objectivement de bons produits.
Merci Julien. Mais oui, toute pub à part, sachez que c'est voilà. Enfin moi.
En fait, t'as fait les suppléments que t'aurais voulu trouver dans le commerce, mais qui n'existaient pas.
Exactement. Et donc du coup, moi, je les prends, ma famille les prend, mon fils le prend. Voilà. Donc c'est vraiment un supplément, avec lequel maintenant je suis entièrement satisfait et je le conseille à tous mes proches autour. Quoi. Donc c'est vraiment d'abord. Me remplir mon propre besoin. Je suis désolé, là, j'ai du mal à parler parce que j'entends mon écho et c'est hyper désagréable. Je sais pas si vous l'entendez.
Non, nous ça va. Très bien.
Pour nous, c'est très bien.
Bah, là, c'est sorti d'un coup et du coup, c'est super désagréable quand on parle de s'entendre en même temps. C'est pas grave. Voilà. Donc, je pense qu'on
peut faire son nutrition. Ouais, très bien.
Passons à la suite. Donc, là, on va reprendre les questions des internautes. Donc, il y a une question diététique santé, donc destination de William. Qu'est-ce que vaut la racine d'ortie, surtout quand elle est présentée comme un stéroïde naturel? Personnellement, j'ai jamais entendu parler de racine d'ortie. Hein. Je te laisse parler.
J'ai jamais entendu parler spécialement non plus. Mais enfin, un stéroïde, c'est un dérivé du cholestérol. Le cholestérol, c'est une molécule qu'on retrouve uniquement dans le règne animal. Donc déjà, un stéroïde naturel, c'est forcément une arnaque. Donc à partir de là, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. La racine d'ortie ne présente pas d'intérêt particulier pour prendre de la masse musculaire.
Mais si on se frotte des orties dessus, on va peut-être devenir plus gros ?
Non, ça peut gratter.
Oui, mais des démangeaisons, on gratte et puis on gonfle.
Tu fais un effet, ensuite tu gonfles, ouais. C'est pas bête, mais non. Donc, de toute façon, les compléments alimentaires, miracle, faut pas trop rêver. Hein. Il y en a qui sortent tous les 6 mois ou tous les ans, il y a des nouveaux trucs qui arrivent, ou alors c'est des redites de vieilles choses dont on parlait il y a 10 ans, il y a 15 ans. Voilà, toujours les mêmes, mais ça n'existe pas. Quand c'est miraculeux, en général, c'est classé sur la liste des produits dopants par l'Agence mondiale antidopage, donc vous ne le trouverez pas en vente dans le commerce. Et ce qui est efficace, véritablement, c'est bien connu. Rudy en parle sur son site, j'en parle dans mon livre Nutrition de la force, et voilà. Mais c'est déjà, si vous prenez toutes les choses qui sont censées, qui fonctionnent, vous aurez déjà un sacré coup de pouce. Hein.
En commençant par les suppléments de Nutriting.
Exactement, mais qui sont avant tout des suppléments santé. Hein.
Ah, c'est spécialement dédié à la masse musculaire.
Non.
Mais par contre.
Alors j'ai juste une question, Julien. Alors je suis désolé, c'était pas prévu, mais tu le traiteras, je pense, dans un prochain podcast. Mais ce serait pas mal de faire le point sur les SARMS, parce qu'on en a vachement parlé à un moment, et puis après je sais qu'il y en a un qui a beaucoup déçu, un isomère, et puis là ils en ont testé un autre. Voilà, je sais pas du tout ce que ça en est. Je pense que ce serait pas mal d'en parler.
Tu veux que j'en parle?
Non, vas-y, fais un petit point.
Ah, ok.
Donc déjà, qu'est-ce que sont les SARMS pour nos internautes?
SARMS, c'est sélective androgène récepteur modulateur.
Donc clairement.
L'équivalent des CERN, c'est sélective.
Non mais ça va.
Estrogène récepteur modulateur. Donc les estrogènes, c'est plutôt des hormones féminisantes et les androgènes, des hormones masculinisantes. Donc la testostérone est un androgène. Et donc en fait, l'idée à la base de ces médicaments-là, c'était de réussir à avoir les effets de la testostérone par voie orale, donc sans utiliser des injections, parce qu'actuellement le seul vrai moyen d'avoir un bon effet avec de la testostérone, c'est d'envoyer des injections pour avoir de bonnes doses, mais ça présente des effets secondaires, puisque la testostérone, quand elle est présente dans l'organisme à forte dose, elle peut par exemple favoriser la chute de cheveux chez l'homme, elle peut favoriser l'hypertrophie de la prostate, et peut-être même développer certains cancers de la prostate. Donc voilà, elle est associée à une série des provoquer aussi des hypercalcémies, des problèmes psychiques, voilà, elle est associée à pas mal de problèmes. Donc c'était problématique. Et dans certaines maladies, notamment dans le cancer où il y a des dénutritions, ou même des gens qui ont le sida aussi en phase terminale, on a des effets de catabolisme assez importants, de dénutrition qui ne peuvent pas être résolus uniquement par l'alimentation. Donc on donne à ces gens-là des hormones pour essayer de les mettre plutôt dans un état d'anabolisme pour éviter qu'ils meurent en fait. Donc c'est de là que, à partir de là que l'idée des SARM a commencé à germer. Donc les SARM, c'est des molécules prises par voie orale qui agissent sur les récepteurs de la testostérone. À certains endroits, ils agissent en les stimulant, et à d'autres endroits, ils agissent sans les stimuler ou alors en les inhibant. Et ça va dépendre aussi de la dose de produits qu'on va administrer. En ce qui concerne les œstrogènes, on a des produits qui marchent très bien pour ça, comme le tamoxifène, qui est très utilisé pour les cancers du sein, par exemple. Mais bon, chez les hommes, pour l'instant, non, rien. Donc il y a eu pas mal de produits qui sont sortis, dont certains qui marchaient plus ou moins. Et en fait, il s'avère que moi, de ce que je sais jusqu'à présent, ces produits-là ont très peu d'intérêt a priori, parce que ils présentent aussi pas mal d'effets secondaires, et notamment malgré que ce n'est pas des hormones en fait, hein, ils activent juste les récepteurs aux androgènes. Et ben malgré ça, il semble qu'ils soient toxiques pour le foie. Ça, c'est une des caractéristiques de la testostérone en prise par voie orale, c'est d'être toxique pour le foie. Là, pourtant, c'est pas une hormone, mais elle aurait les mêmes propriétés. Peut-être que ça s'explique parce qu'elle active des récepteurs aux androgènes au niveau du foie, justement. Donc, pour l'instant, tout ça, ça merdouille pas mal, et ça fait quand même assez longtemps que la recherche sur les SARM essaye de donner quelque chose, et c'est pas du tout concluant. Donc, je suis pas vraiment optimiste pour la suite. J'ai pas eu vent de trucs intéressants. Il y avait aussi beaucoup de sportifs qui pensaient l'utiliser pour dans un but dopant, puisqu'ils voulaient éviter les effets secondaires de la testostérone, mais avoir les effets bénéfiques sur la masse musculaire de manière encore plus importante. Et ben là non plus, il n'y aura pas avant longtemps de telles choses. Donc voilà.
Bon, c'est pas très encourageant.
Non, c'est pas très encourageant. C'est pour ça qu'il vaut mieux lire mon bouquin et lire ton site. Non, mais dans les substances naturelles, il y a des trucs qui stimulent l'anabolisme, comme les oméga 3, par exemple, à bonne dose. Ça, c'est prouvé. Mais il n'y a pas d'effet secondaire. Enfin, les effets secondaires, c'est moins de risque de crise cardiaque, quoi. Donc, une peau plus douce. Donc, c'est quand même assez intéressant.
Des effets secondaires, peut-être chez les hémophiles, non?
Ben non, au niveau de l'augmentation de la fluidité sanguine, c'est des choses qui sont spéculées, mais il n'y a jamais eu. Il y a eu des méta-analyses là-dessus qui n'ont pas montré d'augmentation du temps de saignement, en fait. Donc, pas plus. Si on est hémophile avant, on est hémophile après. Donc, a priori, même à forte dose, ça provoque pas de danger.
Est-ce que tu donnes des oméga 3 à Akuma?
Bah, Akuma, non, il en a dans ses croquettes,
en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il a la peau douce.
Akuma est très doux. Alors, pour les animaux, la nutrition, c'est absolument catastrophique. C'est de véritables saloperies qu'on leur donne. Et non, mais c'est vrai, c'est assez effrayant. Et en plus, si vous avez l'habitude de lire vos étiquettes ou d'acheter des compléments alimentaires, vous verrez que si vous lisez ceux de...
Pour les animaux, c'est horrible.
C'est horrible, hein, vraiment. Ouais, ouais.
C'est comme les boissons, comme les trucs pour les nouveau-nés.
Ouais,
c'est,
ouais.
C'est horrible. La dernière fois, j'ai vu une pub à la télé, j'étais un petit point. Moi, j'ai pas cité de marque, hein, parce que sinon, on va faire attaquer. Mais des petits plats, là, qui disaient... Ah, de la bonne blanquette de veau avec juste ce qu'il faut de crème. Il y avait plus de crème que de blanquette de veau. Et il disait, ah, c'est super et tout. Et... Non, c'est pas super du tout. C'est pas super du tout. Et donc, il y avait plein de plats comme ça. Et il faisait la pub, c'était super. Parce qu'il avait l'impression que c'était super. Et toute la famille en voulait, en fait.
Ouais.
Donc, c'était bien de la daube. Hein.
Et sérieusement, sur les trucs pour animaux, je pense qu'il y a un créneau pour ça. Hein, parce que honnêtement, c'est vrai qu'a priori, c'est de la merde. Et je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à faire attention à ce qu'ils mangent eux et donc à ce qu'ils vont donner à manger à leurs animaux, donc voilà.
Si peut-être que Nutriting va se lancer dans la nourriture pour animaux.
Non, je pense pas.
Je crois qu'il existe déjà des produits bio pour animaux, de qualité, etc. Mais le problème, c'est que ça coûte très cher. Et les gens, malgré tout, quand ils ont un animal, ils sont rarement prêts à mettre le budget qu'ils mettraient pour un enfant.
Un animal, je crois.
Ouais. Oui, pardon, un animal. je pense que c'est une question de budget, après. Et après, je sais pas, peut-être que c'est un concept qui peut fonctionner. Rudy, t'as un nouveau business dans lequel tu peux te lancer. Hein.
Non, moi, ça m'intéresse pas, ça. Je sens pas que ça va marcher, ça.
Ouais, pourtant.
Je sens pas, déjà, que je vois des pubs pour des petits plats avec plus de crème que de viande, et puis ça marche.
Ouais. Et sinon, là, pour les gens qui connaissent pas Akuma, je pense que je mettrai une photo sur le forum.
Qui ne connaît pas Akuma?
je vous le dis, mais hors antenne, Julien m'a dit que ça lui faisait plaisir qu'on parle d'Akuma.
Non, mais maintenant, il y a des gens qui demandent comment va Akuma, donc je pense qu'il y en a qui n'ont pas vu Akuma. Et Akuma n'est pas un chat comme les autres, il faut quand même le préciser. C'est grâce à lui que j'écris de bons articles.
Faut que tu le gardes longtemps, alors. Bon, on passe à la suite.
Vas-y.
Alors, il y a une question entraînement, donc c'est pour toi, a priori, Rudy. Comme quelqu'un qui demande à 40 ans, y a-t-il des risques à continuer d'utiliser des exos de base qui sont dits traumatisants, comme le développé couché, le rowing, etc. Ou est-ce que est-ce qu'il faut passer aux machines ou pas?
Après, tout dépend. À 40 ans, ça fait combien de temps qu'on s'entraîne? C'est toujours pareil. Si on vient de commencer la musculation à 40 ans, qu'on n'a pas d'antécédents au niveau blessure, il n'y a pas vraiment de risque. Les seuls risques qu'il y a, c'est qu'à 40 ans, on récupère moins vite, on prend du muscle moins vite, on prend de la force moins vite, on progresse moins vite, on a moins de potentiel de progression. Donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut réfléchir. Donc on va prendre deux exemples. Hein. Je débute à 40 ans, j'ai pas d'antécédents, il y a pas de risque à ce que je fasse du développé couché, du rowing, du squat, tant qu'ils sont bien exécutés. J'ai remarqué, ça me fait penser à une petite anecdote. J'ai remarqué en fait, je suis pas vieux, mais rien qu'un exemple, quand j'avais 20 ans, j'avais des fois des petites tendinites.
T'avais 20 ans, mais t'as quel âge?
Ah, il va être dur. Et donc, à 20 ans, quelques tendinites, je m'arrêtais genre une semaine, je sautais un exercice et puis hop, ça se réparait tout de suite. Puis là, bah maintenant, à 25 ans, bon, bah maintenant il y a une tendinite, j'arrête deux semaines, bah elle est toujours là en fait. Donc on voit que ça récupère beaucoup moins bien, donc à 40 ans, forcément, ça récupère moins bien et donc faut faire plus attention. Par exemple, à sa technique d'exécution sur les exercices, on peut moins se permettre de tricher. C'est par exemple ce que montrait Michael Gondin justement. Il s'entraîne plus pratiquement que sur machine. Donc c'est aussi un point intéressant de la question, c'est que malheureusement dans la plupart des salles, il n'y a pas de bonnes machines. Il y a souvent des machines bien pourries. Donc Patrick, où est-ce que tu t'entraînes d'ailleurs?
Depuis un an, je m'entraîne au Club Med Gym Nation, voilà. Où il y a des machines pourries, mais il y en a d'autres qui sont pas trop mal, donc après faut savoir faire le tri, quoi.
Voilà, donc en fait le plus gros problème, c'est de trouver les bonnes machines pour pouvoir s'entraîner dessus. Évidemment, si on avait que des super machines qui étaient toutes bien réglées, etc., bah ce serait mieux que les exercices qui sont plus traumatisants, donc avec barre libre ou halter. Sauf que la plupart du temps, bah les machines sont bien pourries. Donc dans la salle où je m'entraîne, que je ne vais pas citer, toutes les machines sont pourries. Donc il y en a aucune qui est bien. Donc comme ça, ça règle l'histoire. Donc non, à 40 ans, les conseils que je donnerais, c'est 1. Faire plus attention à sa technique d'exécution, donc moins tricher. Ne pas vouloir faire comme les petits jeunes et surcharger au niveau volume de travail. Donc quand on est jeune, on a tendance à vouloir en faire trop, etc. Donc comme je disais, par rapport à mon expérience, on récupère plus vite, donc on peut se permettre d'en faire trop, et puis au final, ça va quand même aller. Alors qu'à 40 ans, bah, ça va moins pardonner. On peut plus vite se blesser, se déchirer un muscle, et donc en faire moins. Et après, sinon après toujours pareil, optimiser sa nutrition. Là c'est pas la question, mais toujours optimiser sa nutrition, ses suppléments, son hygiène de vie pour essayer de tirer le meilleur parti de soi-même.
Alors je vais juste enfoncer une porte ouverte, mais faut pas attendre 40 ans pour faire gaffe à ses exos, parce qu'évidemment, enfin voilà, Rudy parlait de tendinite et moi je traîne des tendinites assez sévères à mes coudes depuis un long moment, et voilà, c'est vraiment un truc qu'on entretient entre guillemets dès le plus jeune âge sans s'en rendre compte au début, et après une fois que la tendinite elle est là, c'est déjà trop tard, quoi.
C'est qu'au départ en fait on est un peu, moi j'ai commencé jeune, donc au départ t'es un peu vulnérable, donc tu te dis tu triches un peu, ça va, et puis plus ça va et plus tu te rends compte en fait que t'as intérêt à être strict, parce que tu sens que quand tu merdes niveau technique sur un exercice, bah tout de suite tu vas le ressentir. Donc c'est plutôt dans ce sens-là, donc plus tu vieillis, plus tu dois faire attention, parce que sinon...
Non, c'est vrai, mais il y a vraiment l'effet, quand t'es jeune, t'as mal, t'arrêtes, ça s'en va, enfin c'est miracle, plus tu vieillis, moins c'est le cas, et donc après tu vieillis, t'as mal, tu dis, ouais, c'est pas grave, je m'en fous, j'ai mal, je m'en fous, c'est les vacances dans un mois, je vais tout donner ce mois-ci, puis de toute façon, je vais m'arrêter deux semaines, et en fait, voilà, c'est le genre de truc qu'il faut pas faire, quoi, quand on a mal.
Bah non, genre, là, maintenant, après, je pense qu'à 40 ans, ça part plus, quoi, ça part quoi comme
non.
Ça.
Ouais, non.
Donc, ouais.
Voilà. Suite question diététique santé pour Julien. Les produits laitiers épaississent-ils la peau? Et moi je vais rajouter plus généralement, est-ce que les produits laitiers peuvent impacter les problèmes de peau type acné? Voilà, j'ai rajouté un petit mot à la question. Je pense que c'est intéressant.
Fais comme chez toi.
Merci.
Alors déjà, les produits laitiers peuvent-ils épaissir la peau? Qu'est-ce que ça veut dire épaissir la peau? Épaissir la peau, ça veut dire qu'on a l'épiderme qui a gagné en épaisseur. Je vois pas par quel miracle est-ce que ça se produirait. En plus de ça, le temps de renouvellement de l'épiderme, c'est environ 3 semaines. Donc les gens qui prennent des produits laitiers en général voient la différence en 2 jours. Donc ça peut pas être la peau elle-même qui a subi une modification quelconque. Ce qui peut se passer, c'est qu'il y a une modification au niveau de la rétention d'eau, parce que soit on a consommé un produit laitier qui est riche en sodium, donc bah typiquement c'est le fromage par exemple, ça peut provoquer de la rétention d'eau évidemment. Et sinon dans les produits laitiers maigres, moi dans la pratique j'ai rarement vu ce phénomène, mais il y a certaines personnes qui l'ont expérimenté. Il est probable que certains peptides du lait ou des produits laitiers après digestion puissent influencer les hormones, au niveau rénal, du système rénine-angiotensine-aldostérone, et qu'elles puissent ensuite induire une légère rétention d'eau, qui donc va stocker un peu d'eau sous la peau, et donc donner cette sensation d'être un petit peu gonflé. Moi, je pense que concrètement, ça concerne peu de personnes, et que c'est plutôt un mythe qui a été un peu colporté. Mais bon, si vraiment, parce que pour pouvoir se rendre compte de ça, il faut quand même déjà être assez sec physiquement, avoir un bon physique. Donc c'est une minorité de gens qui sont capables de le voir. Mais bon, j'ai déjà vu des compétiteurs aussi voir ça. Donc oui, théoriquement c'est possible que les produits laitiers puissent faire un petit peu de rétention d'eau, qu'ils puissent par contre épaissir la peau au sens strict du terme. Non, ça c'est pas possible. Physiologiquement, c'est pas possible. Ensuite, sur la question des boutons, de l'acné, est-ce que les produits laitiers peuvent donner de l'acné? Absolument. À peu près tous les produits laitiers peuvent provoquer de l'acné, parce qu'ils ont une capacité à faire piquer l'insuline et les hormones anabolisantes, et ça va stimuler au niveau de la peau tous les phénomènes inflammatoires, et du coup ça a tendance à, ça peut provoquer des poussées d'acné. Donc dans ce cas-là, il faut simplement arrêter de consommer des produits laitiers ou essayer d'acheter une caséine à la place d'une whey. Ou alors, là c'est un peu idiot, mais c'est vrai qu'en achetant une whey de mauvaise qualité, on a moins de chances d'avoir le problème parce que les peptides ont été abîmés pendant le processus de fabrication.
Mais encore, faut-il trouver la marque qui est de mauvaise qualité?
Ah bah ça doit pas être
dur. C'est pas compliqué ça.
Je crois que ouais, dans la plupart des magasins, dans la plupart des magasins de grandes marques qu'on peut trouver dans les grandes villes, pour ne pas les citer, sont connus pour vendre des produits de mauvaise qualité. Donc probablement moins de risque d'avoir de l'acné avec ces produits-là. Mais tout ce qui fait piquer l'insuline de toute façon est susceptible de provoquer de l'acné.
Donc même par exemple les glucides à haut index glycémique alors.
Absolument, ouais, tout à fait. Et il y a des études, il y a pas mal d'études là-dessus. D'ailleurs, je consacre un petit chapitre à l'acné dans mon prochain bouquin.
Je crois pas que tu l'avais dit.
Bon, bah maintenant c'est fait.
Ouais, j'ai bien fait d'en parler alors.
Ouais, c'est un bon point comme ça. Bientôt le nouveau livre de Julien Vénesson.
Non mais ouais, non mais c'est pas très compliqué l'acné comme maladie quoi. C'est.
Ok. Donc prochaine question, elle vous concerne un peu tous les deux. Et moi je connais la réponse parce que j'ai lu le premier livre de Julien, La nutrition de la force. La question est, peut-on progresser au régime?
Ah, c'est une bonne question. Voilà. J'aime bien cette question. Peut-on progresser au régime? Alors déjà. On va partir du postulat que on s'entraîne très très bien en suivant les conseils de Superphysique, et donc on progresse habituellement pratiquement à chaque séance. Donc au régime, bon bah comme on mange moins que ce qu'on devrait consommer, forcément on a moins d'énergie, on se retrouve avec moins de force, et donc il est plus dur de progresser. De mon expérience personnelle, donc et surtout de coach. Ce que j'ai remarqué, c'est que certains exercices étaient plus impactés que d'autres par le régime, dont par exemple le fameux développé couché, où seulement, on va donner une bonne moyenne, une personne sur 100 arrive à progresser au couché au régime à peu près, et 99% des gens au régime voient leur développé couché diminuer un peu. Donc je n'ai pas la raison particulière, mais
Mon avis, je pense que tu remarques le point commun de ces exercices qui progressent plus ou pas au régime, c'est des mouvements polyarticulaires.
Ouais, mais on peut quand même encore progresser. J'ai remarqué, c'est surtout le développé couché qu'on était beaucoup moins impacté, par exemple au squat ou au soulevé de terre. On sent qu'on a moins d'énergie, mais la force reste.
D'accord.
Alors qu'au couché, ça, c'est vraiment d'un coup tu te retrouves et tu te dis oh putain la barre est lourde quoi.
Je plus soit, juste moi d'expérience, le développé couché c'est ce qui réagit le plus aux variations, aux écarts alimentaires quoi. Dès que je vais faire un petit écart, je vais me faire plaisir, le développé couché va monter en flèche et puis à l'inverse, dès que je vais commencer à entamer mon régime, c'est ce qui descend le premier.
Voilà
quoi.
C'est un bon marqueur. C'est un bon marqueur de savoir. Donc voilà, progresser au régime c'est possible, mais certains, en gros tous les exercices de développé vont être vraiment très impactés et donc il va être très dur déjà de maintenir son niveau. Donc si vous arrivez à maintenir votre niveau sur l'exercice de développé, c'est très bien. Tous les autres exercices peuvent progresser, il n'y a vraiment pas de souci. Vous êtes un peu plus fatigué, c'est normal. Mais après, comme vous êtes motivé et puis que vous voulez vraiment du muscle, normalement ça tient bien et vous pouvez continuer à progresser en suivant les conseils de Superphysique. Donc c'est-à-dire en s'entraînant en série mi-longue et en faisant pas trop d'exercices et de séries. Donc est-ce que tu voulais faire un petit point là-dessus, Julien, au régime? Pourquoi on avait du mal à progresser?
Non, ça va. Non, je pense que au niveau psychique.
Oui, t'as raison. Bien vu.
De quoi j'ai raison?
Bah sur l'aspect psychique, quand on est fatigué, on a l'impression que.
Bah ouais, les réserves, comment dire, d'une certaine manière, les réserves d'énergie au niveau mental qui dépendent aussi de la bouffe et quand ces réserves elles viennent à manquer, du coup, on a moins d'impulsion électrique, on va dire aussi, qui démarre, et je pense que c'est pour ça qu'on perd plus de force sur les mouvements polyarticulaires que sur les mouvements biarticulaires.
Donc, et après, quand on arrive dans les semaines en fin de régime, si on veut vraiment être sec, bon bah là, psychologiquement, on se sent aussi beaucoup plus affaibli, et après, on a l'impression que tout pèse une tonne.
Ouais.
Donc, ouais, c'est vrai que la psychologie joue beaucoup aussi.
Mais ce qui est marrant, enfin, c'est qu'on utilise le mot psychologie, mais c'est pas sous l'empreinte de la volonté. Hein. Ce qui est psychologique n'est pas forcément volontaire, ni conscient.
C'était la touche Psychologie Magazine, le podcast Super Musique avec William Carnimola.
Bon, on a répondu à la question?
Je pense.
Ok, très bien. Là, une question un peu touchy pour toi, Julien.
Benoît, on l'appelle Benoît aussi.
Benoît.
C'est quoi touchy?
C'est bah tu vas voir, c'est quel est l'impact de l'entraînement sur le système hormonal? Voilà, c'est une très large question, hein, donc je sais pas dans quel sens l'internaute pensait à l'impact, mais voilà, parce que peut-être que je ne sais pas là-dessus.
Oula, il est tombé par terre, Patrick, avec son micro.
Non, c'est mon micro, ça fait.
Patrick est mort. Patrick est mort, vite, appelez les secours.
L'impact hormonal de l'entraînement, bah il y a pas mal d'études là-dessus. Il semble que ça change selon le niveau. Déjà, quand on est débutant, ça a l'air de stimuler pas mal la testostérone et les hormones anabolisantes. Et puis ensuite, il semble qu'avec l'entraînement, ça atteigne un plateau.
Ça perd de son effet, on s'immunise contre cet effet.
Ouais, on s'immunise à ce niveau-là. Par contre, je pense que quand même, ça permet de maintenir un bon taux de testostérone comparativement à quelqu'un qui fait rien de ses journées, quoi, hein, parce que ça entretient la machine, quelque part, ça stimule plus l'organisme. Et puis, j'ai pas d'études en tête, mais le sport, quand c'est pas trop exagéré en intensité, que c'est pas trop long, donc typiquement la musculation, ça stimule la GH, donc les hormones de croissance. Ça aide à rester, on va dire, l'hormone de croissance, c'est l'hormone de la jeunesse, hein, donc. Moins de rides, moins de choses comme ça, de maladies dégénératives liées à l'âge. Pour les gens qui font de la muscu, ça c'est clair. Donc c'est anti-âge hein, de faire de la muscu.
Donc ce qu'on peut dire aussi, c'est que pareil, plus on avance en âge, et moins l'entraînement a cette faculté d'osser la testostérone.
Bah, c'est ce que j'ai dit juste avant.
Ah merde, bah tu parles, je t'ai pas écouté alors.
Tu m'as pas écouté. Ouais. Eh bah disons
que Rudy. C'est une vengeance, parce que d'habitude Julien n'écoute qu'à moitié.
Alors, du coup, moi, je vais rajouter une question à la question. C'est ma spécialité, ce soir. Non, mais c'est pour savoir, j'ai entendu justement, on entend parfois que certains sports sont bons ou mauvais contre le vieillissement. Donc, typiquement, la musculation, on sécrète plus d'hormones de croissance, donc c'est bon, alors que des sports d'endurance, de très longue endurance, type marathon, c'est plutôt le cortisol qui va prendre le dessus sur le reste, et niveau vieillissement, c'est pas terrible. Alors que paradoxalement, et ça tu l'expliques dans ton livre, plus on vieillit, meilleur on devient en sport de sport d'endurance. Quoi.
Tout à fait. Mais il n'y a pas de question là, dans ce que tu viens de dire.
C'est est-ce que c'est le cas? Est-ce que, enfin, moi c'est un on dit. Donc
est-ce que les activités d'endurance favorisent le vieillissement?
Voilà.
En excès, je veux dire, les gens qui font beaucoup de marathons, de choses comme ça, ils ont l'air fatigués à 20 ans. Hein. Donc non, mais c'est vrai. Évidemment.
Des amis marathoniens qui vont pas aimer entendre ça.
Et tes amis marathoniens, est-ce qu'ils ont l'air plus jeunes que leur âge?
Ils ont pas l'air plus vieux en tout cas, hein. Mais après ils sont peut-être encore jeunes, hein, mais on verra dans 30 ans.
Ouais,
Comment s'appellent ces amis, Patrick?
Non, je ne donne pas de nom. Ils se reconnaîtront.
Non, l'effort physique intense, c'est pas bon. Et faire de l'endurance un petit peu, c'est bien, mais c'est rapidement, ça a tendance à être assez rapidement délétère, mais en fait, c'est pour tout un tas de raisons, en fait. Déjà, comme c'est des sports qui n'aident pas à maintenir la masse musculaire et qu'en vieillissement, on a tendance à perdre de la masse musculaire, déjà, ça contribue pas à garder un beau physique. En plus, la masse musculaire a un lien très fort avec l'efficacité du système immunitaire. Donc, du coup, on est plus résistant aux microbes et aux maladies en vieillissant quand on a une bonne masse musculaire que quand on en a pas beaucoup. Tout ça, ça donne un avantage au sport de force, hein, plutôt à la muscu. Et effectivement, oui, c'est tout à fait juste que le fait de pas faire des efforts trop intenses stimule moins le cortisol, et c'est d'autant plus important quand on avance en âge. Donc effectivement, les sports pas trop longs et pas trop intenses, c'est plus anti-âge que les sports d'endurance ou d'extrême endurance. Ça, c'est une évidence. Pendant l'effort, on produit aussi des radicaux libres. Hein. Donc les radicaux libres, ça fait vieillir.
Et d'où l'importance du coup des glucides pendant l'entraînement, non? Parce que ça aide à lutter contre la hausse du cortisol.
Bah oui, c'est sûr que c'est bien, mais je pense pas que ça suffise à limiter les dégâts de
du marathon.
Du marathon, ouais.
Je parlais de l'entraînement de muscu pour le coup, mais
pour la muscu, oui, ça c'est bien, c'est une évidence. Hein. On en a parlé dans les podcasts, je sais plus, il y a deux ou trois podcasts, Rudy, on a parlé de ça.
Ouais, on en a parlé deux fois en plus parce que on avait eu des critiques.
Ouais.
Et donc on avait refait le point dessus. Donc nous conseillons les glucides pendant l'entraînement.
Ouais, et reportez-vous aux anciens podcasts pour comprendre pourquoi.
Il y avait une dernière question.
Ouais, il y a une dernière question. Alors la question c'est que vaut la silice de prêle? Alors je commence à répondre Julien, mais la silice de prêle, l'ingrédient actif étant le silicium, donc je pense que ce soit de prêle ou d'autres choses, ce qui nous intéresse c'est que vaut le silicium. Voilà.
Que vaut la silice?
La silice, oui.
Pas le silice,
la silice. Oui, pardon, la silice.
Donc la silice issue de la prêle, c'était ça la question. Et ben, comment dire? Alors, en fait, c'est un des constituants, du cartilage, des articulations, etc. Donc c'est utilisé en complément alimentaire pour aider à renforcer tout ça. Mais il y a assez peu d'études. Il y a pas mal d'utilisation traditionnelle de la silice qui donne d'assez bons résultats. Donc a priori, ça a l'air d'être un petit peu efficace. Et je pense que d'en prendre tout seul, c'est pas très utile. C'est plus le genre de choses qu'il faut prendre en association avec de la glucosamine, par exemple, pour renforcer les effets de l'un et de l'autre. Donc, c'était quoi la question exactement, j'ai eu un...
C'était
que penser de la silice.
Bah voilà.
Donc
on peut en penser que c'est bien, mais qu'il faut probablement pas uniquement prendre ça. Je prendrais pas uniquement de la silice pour protéger mes articulations. Par contre, en association, c'est pas mal. Il y a des produits d'ailleurs qui en contiennent en association avec d'autres éléments. Là, c'est intéressant.
Alors juste pour précision du coup entre silice et silicium, parce que j'avais une confusion, la silice c'est du dioxyde de silicium, voilà, SiO2. Pour nos amis chimistes, quelques-uns qui nous écoutent. Voilà.
C'était la précision intelligente de la soirée.
Ouais, mais il en fallait une. Bon ben voilà, je pense qu'on a fait le tour.
Voilà, on a fait le tour pour le podcast de la semaine, donc merci Patrick d'être venu participer.
Écoutez, merci de m'avoir invité, hein, c'était un plaisir, hein, vraiment.
Bah, c'était mieux toi que d'avoir Akuma, de toute façon.
Écoute, la prochaine fois, je veux bien en avoir un avec Akuma.
Et la semaine prochaine, Rudy, je pense que tu peux dire aux auditeurs que tu m'as fait part de ça avant l'émission, que la semaine prochaine, on parlerait uniquement de nutrition pour les chats.
Non, la semaine, je donne rendez-vous la semaine prochaine pour un rendez-vous spécial CrossFit, donc avec El Sabre et Julien. Donc comme on vient de mettre justement ce soir un article promotionnel pour les championnats de France de CrossFit. Donc on fera, et comme en ce moment il y a les CrossFit Games, on fera un gros point sur le CrossFit, l'entraînement, la nutrition. Donc tout savoir sur le CrossFit et comment ça marche. Donc avec El Sabre et donc avec Julien Vénesson, alias Benoît des Mauvaises d'Énergie 12.
Quel véro.
On ne fuira jamais.
Bon, bah, donc je vous dis à tous, bonne écoute, et puis à la semaine prochaine, de toute façon.
Au revoir.